À plus d'un titre, deuxième partie, bonjour à tous. Une émission consacrée aujourd'hui à Georges Bataille. Avec vous, Michel Suria, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, Michel Suria, éditeur, écrivain, éditeur, spécialiste de Bataille, directeur de revue. On parlera avec vous de la revue Ligne en fin d'émission. Vous nous donnerez des nouvelles du sommaire de la dernière livraison. Et vous publiez dans votre maison d'édition, la maison Ligne, donc, qui porte le nom de la revue, donc cet ouvrage de Georges Bataille, Discussion sur le péché, un ouvrage que vous avez donc présenté. Et en vous présentant, Michel Suria, je disais que vous êtes un spécialiste de Georges Bataille. Vous avez publié chez Gallimard, il y a quelques années déjà, une biographie intellectuelle de Georges Bataille intitulée « La mort à l'œuvre ». Alors là, il s'agit d'une conférence prononcée le 5 mars 1944 devant un aréopage prestigieux qu'on en juge. Arthur Adamoff, Maurice Blanchot, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Jean Danielou, Maurice de Gandillac, Jean Hippolyte, Pierre Klossowski, Michel Léris, Jacques Madaul, Gabriel Marcel, Louis Massignon, Maurice Merleau-Ponty, Jean Paulhan, Jean-Paul Sartre, entre autres, tous présents donc, lors de la discussion animée qui suivit cette conférence et qui n'est pas moins intéressante que la conférence très écrite de Georges Bataille. Alors justement, la moindre des surprises n'est pas de constater que dans ses réponses aux interventions des uns et des autres, les libres propos de Bataille apparaissent finalement de la même eau que cette conférence très écrite, coulée spontanément dans la dialectique subtile qui noue et dénoue les propositions au cours de la conférence. Beaucoup de participants avouent d'ailleurs avoir été frappés par le ton de Bataille, qui produit ses effets charismatiques et entraîne les participants dans son sillage. Toute la discussion reste dominée par sa rhétorique puissante et ses thématiques, à l'exception notable de Sartre, qui campe un saint Thomas à l'occasion goguenard. On y reviendra. Mais parlons donc du sujet, peut-être déjà de cette conférence, si vous voulez bien, Michel Suria. Donc, le péché, c'est une question posée dans l'orbite de l'expérience intérieure, grand ouvrage de Georges Bataille, qui vient de paraître, en fait. C'est un ouvrage de 1943. Nous sommes en 44, la fin de l'hiver 44.
On ne peut pas mieux présenter les choses que vous l'avez fait. Seule restriction près que je me permettrais de faire, que je ne me prétends pas spécialiste de Bataille, je ne voudrais surtout pas en être un, ni surtout pas en devenir un. Pour le reste, tout ce que vous avez dit est juste. Avant que j'en vienne à une question très compliquée du péché et de l'élection que Bataille a fait de ce thème, car c'est lui qui l'a fait. On aurait pu s'attendre, étant donné qu'il était invité par des chrétiens, à ce que ce soit les chrétiens eux-mêmes qui aient choisi ce thème-là parmi l'expérience intérieure.
Oui, c'est à l'invitation d'une revue.
C'était à l'invitation d'un étrange personnage, Marcel Mauré, que Bataille avait connu et bien connu par le passé, et d'une façon assez intime, puisqu'il avait été très proche de Colette Peignot, qui était une femme que Bataille avait considérablement aimée juste avant la guerre et était morte en 1938.
Laure,
Colette Peignot, Laure. Et Marcel Mauré, pour catholique qu'il fut, n'en était pas moins l'ami de Laure. Laure ayant été elle-même catholique dans un passé beaucoup plus lointain, c'était là qu'ils s'étaient rencontrés. Cette connaissance que Marcel Mauré avait de Bataille n'excédait pas cette intimité-là, c'est-à-dire qu'il n'a jamais participé aux activités d'Acéphale, par exemple, toutes les entreprises tout à fait étranges auxquelles Bataille s'est livré dans les miettes avant-guerre. Mauré n'en était pas. Mauré est un vrai chrétien passionné qui tient salon, c'est très étrange, pendant la guerre, chez lui. Un assez grand chez lui pour recevoir jusqu'à, pour certaines conférences, oui, d'autres, jusqu'à 150 personnes.
Parce que là, j'ai cité quelques noms,
oui,
mais il y en a beaucoup d'autres.
Il y avait des assistants aussi, il y avait des gens dont le nom ne figure pas, parce que sans doute, n'en avait-il pas encore, peut-être d'autres étaient-ils là qu'on ne connaît pas. Il était dans cette optique tout à fait intéressante à mes yeux, tout à fait passionnante, qui consistait chez certains chrétiens, plutôt jeunes, tout à fait brillants intellectuels, vous l'avez dit, on le voit dans cette discussion passionnante, de jeunes chrétiens intellectuels qui se satisfont plus du tout du caractère nécrosé du christianisme de l'époque. Et ils sont passés tous, vous avez cité Lubac, n'y est pas, mais c'est le cas de l'un d'entre eux, vous avez, oui, cité Danielou, vous avez cité Madaul, tous ces gens-là ont lu passionnément Dostoïevski et Nietzsche. Pour eux, Dostoïevski et Nietzsche est le moyen d'une revitalisation, d'une résurrection paradoxale du christianisme. C'est l'affirmation qu'ils font à peu près tous, et c'est comme ça que Mauret présente les choses. Et là-dessus, il est un peu le porte-voix de tous ceux qu'il a réunis. La descente au souterrain et aux enfers auxquels les invitent Dostoïevski et Nietzsche peut paraître certes de nature à condamner le christianisme, mais à leurs yeux, eux, de chrétiens jeunes et intellectuels, c'est au contraire une chance paradoxale, c'est même une sorte d'apologétique paradoxale pour le christianisme, c'est-à-dire que le christianisme ne vivra qu'à la condition qu'il se prête à cette descente aux enfers. Alors de ce point de vue-là, bien évidemment, il ne pouvait qu'être intéressé par ce que Bataille avait écrit dans l'Expérience intérieure, qui est le livre qui a paru l'année précédente. Il faut le préciser, c'est le premier livre connu de Bataille et signé de son nom. Ce livre n'a pas un impact si considérable que ça, mais il ne passe pas inaperçu aux yeux de tous ceux qui sont là. Surtout pas aux yeux de Sartre, oui. Lequel a éreinté, je crois que c'est le mot, ce livre, dans trois livraisons successives des Cahiers du Sud. C'est un texte qui doit faire au total près de 100 pages. Il le traite de tous les noms. De veuve de Dieu, de... Enfin bon,
ouais. On peut, si vous permettez,
oui,
juste
je vous en prie,
par parenthèse, citer les propos de Sartre, non pas au cours de la discussion, on y reviendra, mais dans l'un de ces articles dont vous parlez, Michel Suria, donc, qui sont parus dans les Cahiers du Sud. Monsieur Bataille survit à la mort de Dieu. On connaît ces fameux raisonnements glacés et brûlants, impuissants dans leur aigre abstraction, dont usent les passionnés, les paranoïaques. Leur rigueur est déjà un défi, une menace. Leur louche immobilité fait pressentir une lave tumultueuse. Tels sont les syllogismes de M. Bataille, preuve d'orateur, de jaloux, d'avocat, de fou. Le reste est affaire de la psychanalyse, etc.
C'est pas le meilleur Sartre, hein. C'est pas le Sartre le plus inspiré.
Oui, et mordant.
Et le ton, le style est beau, la mauvaise foi est totale. Qu'est-ce qui peut faire qu'il a pris si ombrage, lui qui publie la même année Expérience intérieure, il publie Lettre et le néant, livre qui s'impose presque immédiatement comme étant la philosophie de la fin de la guerre et de l'après-guerre, à peu près tout le monde s'en avise. Ouais. Bataille, à côté de cela, avec l'Expérience intérieure, connaît une audience absolument misérable. Alors qu'est-ce qui peut l'avoir si fort fâché dans l'Expérience intérieure ? Il le dit, un style, un ton, une philosophie, elle n'est pas absolument si lointaine que ça. Je veux dire, des ouvrages ont paru depuis, des études ont eu lieu, qui démontrent que, et avant et après, Sartre a toujours monté et montrera toujours une certaine estime intellectuelle pour Bataille. Simplement, ce n'est pas la philosophie ainsi qu'il l'entend. Et même, il a la cuistrerie de vouloir faire passer Bataille pour un assez piètre philosophe, d'une certaine façon.
Oui, il a des arguments de professeur, un peu,
voilà.
Par moment.
Il incarne dans ce petit théâtre que je ne me suis plus à faire revivre là, il incarne le rôle de la philosophie professorale, celle dont Bataille s'est toujours moqué. Je l'ai dit d'ailleurs à un moment, je crois qu'il y a des allusions chez Bataille contre Sartre qui ne sont pas moins blessantes en retour. Bataille a toujours beaucoup moqué la philosophie professorale. Bien sûr, pour lui, elle est affaire d'expérience, ce que Sartre aurait dû comprendre, en somme. Mmh. Et ce dont Sartre n'est pas si loin, en somme. Et ce sur quoi, je pense pas tout à fait la même chose que vous, au cours de la discussion, il s'approche. Il se montre 10 fois moins violent, tranchant,
oui, que dans le texte.
Que dans le texte.
Que vous citez vous-même, Michel Suria. Alors, juste, on y reviendra sans doute, mais donc l'intervention de Sartre, c'est vraiment d'ailleurs un duel au sommet, hein, parce que les autres participants, même les catholiques, je le disais, donc ils sont entrés dans la rhétorique de Bataille.
Oui, pour les raisons que je vous disais, ils sont intéressés par, voilà, cette rhétorique-là, bien sûr.
Voilà. Alors Sartre, c'est sa première intervention, je crois, lui dit « Je voudrais savoir pourquoi Bataille se sert du mot « péché ». Et s'il ne pourrait pas soutenir les mêmes idées sans la notion de péché, qui me paraît se référer à des valeurs que par ailleurs il rejette. Alors ça, la contradiction dans les termes, ça revient, hein, sa bouche.
Il n'est pas le seul Hippolyte, et lui qui tient vraiment le rôle des philosophes.
Voilà. Jean-Hippolyte, traducteur et surtout, enfin,
traducteur
grand connaisseur.
Oui, la philologie de l'esprit, première traduction de Hegel. tous les deux essayent d'acculer Bataille dans les cordes de la logique. Et il fait défaut à la logique lui fait défaut, c'est une chose. Il semble qu'ils sont venus dans cette idée-là, que c'est ainsi qu'ils allaient le prendre et qu'ils allaient démonter l'artifice rhétorique qui serait le sien à leurs yeux. C'est très étrange, car eux-mêmes se mettent à douter de leur propre logique. Alors, il y a un moment où, très étrange, ou un tout petit peu plus loin, si je ne me souviens bien, et je crois Sartre, ou sinon Sartre, du moins Hippolyte, disent à Bataille qu'il pêche par excès de logique. Quand jusque-là, il l'accusait brutalement d'en manquer. Et Bataille, qui est très ambigu, en fait, qui se montre comme d'un jésuitisme assez consommé, et un talent jésuitique assez remarquable, arrive à les dérouter à chaque fois. À chaque fois que ceci sent le tenir, il fait comme si, évidemment, ces raisons dont il l'accuse, il les avait prévenues, lui-même en était très avisé, et qu'il ne l'avait fait que pour montrer combien ses objections étaient vaines. Sartre ne ferait jamais que dire ce que Bataille voulait qu'il dise, en lui disant « Mais le péché, enfin, vous en usez artificiellement, puisque sitôt qu'on vous demande pourquoi vous en usez, vous dites « Oui, le péché ne m'intéresse pas à ce point-là », c'est-à-dire la faute ne m'intéresse pas parce qu'elle est morale, seul le péché ouvre une sorte de tourment éternel qui correspond à peu près à ce que je cherche à représenter, c'est-à-dire de se libérer, de s'affranchir, de s'émanciper de toute notion ».
Oui, de bien et de mal, notamment. Alors, il y a une dialectique très subtile, je le disais, il est beaucoup question de péché, bien sûr, mais aussi de sacrifice. Alors, dans des pages que ne renierait pas quelqu'un comme René Girard, par exemple, sur l'importance du sacrifice et finalement sa contribution au bien, alors qu'il est un mal par nature, et notamment le sacrifice du Dieu.
C'est la condition de la communication chez Bataille. Voilà. C'est une étrange clé, elle est constante, elle restera constante. Il y a des fois, il y a là des énoncés approximatifs, quelquefois, qui sont liés aux circonstances, c'est-à-dire à ce qu'on croit devoir dire à un moment pour se sortir d'un mauvais pas théorique ou d'un mauvais pas conversationnel. Mais cette idée que le sacrifice est la clé de la communication et qu'il n'y a pas de rapport sans la communication engendrée par le sacrifice, c'est tout assez fâle, ça. Mmh. Qu'est-ce que c'est assez fâle ? C'est une religion sans Dieu qui essaie de se constituer.
Le nom de la revue, donc, qui organisait aussi
qui organisait, c'est-à-dire du petit groupe qui se réunissait en forêt et qui a été jusqu'à concevoir la nécessité et même la nécessité théorique d'un sacrifice. Pourquoi ? Parce que c'est une idée assez d'ailleurs redoutable, dangereuse. Une communauté ne se constitue que comme communauté de survivants et elle ne communique qu'à l'excès de la mort. Mmh. Et à l'excès de la mort, ce n'est pas la mort naturelle, c'est l'excès de la mort par sacrifice.
Oui. Le sacrifice est du côté du mal, c'est un mal nécessaire au bien. Alors quand je parlais de René Girard, lui, il pense que c'est un mal nécessaire notamment au lien social, la constitution de la société elle-même, la désignation d'un bouc émissaire.
Mais vous auriez raison d'ajouter aussi que René Girard est un catholique.
Oui.
Et que de ce point de vue-là, il est un catholique qui peut entendre ce que Bataille dessine sous cet angle-là.
Alors il dit aussi, s'ils avaient gardé leur intégrité respective, si les hommes n'avaient pas péché, Dieu d'un côté, les hommes de l'autre, auraient persévéré dans leur isolement.
Et oui, quand je dis la communication, c'est ça, l'être est séparé. Et seulement la faute, seulement le péché, seulement le mal font qu'ils entrent en communication. Et c'est effectivement éminemment paradoxal, mais c'est de ces renversements dont Bataille était coutumier, qui par exemple veulent chez lui que le bien soit du côté du déclin et le mal du côté de la souveraineté. Et il inverse tout.
Alors, on l'aura compris, Michel Suria, il ne s'agit pas d'un péché de confessionnal, on va dire, mais d'une certaine façon du péché originel, symboliquement représenté par le défi d'Adam, mais concrètement accompli finalement dans le sacrifice de la croix, dans la crucifixion. Donc la personne du Christ aussi, elle flotte un peu sur la réunion.
Flotte pour ceux qui veulent la voir, ouais. Et faire flotter. Elle flotte pour les chrétiens. Pour Sartre, je pense qu'elle est tout à fait absente. Pour Bataille, oui, il entretient. Mais c'est une étrange représentation même du crucifix, je veux dire, de la crucifixion chez lui. On pourrait penser davantage à Clovis Trouille qu'à qu'à Grunewald. Et encore, on pourrait penser à Grunewald et à Clovis Trouille ensemble. Quand Bataille disait dans une conférence qu'il a prononcée beaucoup plus tardivement, qu'à la fin, il s'agit de rire, devant la mort, sous-entendu, il s'agit de rire, et il dit comme on rirait devant un crucifix. C'est à la fois une certaine forme de moquerie souveraine, de refus du salut total, de refus de tout devenir. De tout...
Oui, c'est mesquin pour lui, en quelque sorte. Cette,
oui, parce qu'elle représente quelque chose
à quoi il se... Cette monnaie du salut.
Ouais. Il est à la fois, comme Nietzsche l'a été avant lui, à la fois fasciné par la figure du Christ. Il a lui-même été un chrétien, un jeune homme, très, très, très actif et très sincère. Mais à la fin, c'est une promesse de salut à laquelle il se refuse tout à fait. Je veux dire, il y a, de ce point de vue-là, nietzschéen strictement, toute espèce de promesse et d'assurance de salut lui sont absolument insupportables. Il n'y a d'être possible que affranchi de toute espérance de salut.
Alors, vous venez de parler de Nietzsche, Michel Suria. Il est partout présent dans la conférence, puisque chacun des chapitres, il y en a une dizaine.
Oui.
Porte en exergue une phrase de Nietzsche. Alors, j'en ai repéré une, effectivement, qui entre tout à fait dans le plan de cette conférence. Je cite cette citation en partie. « Mais moi, je me réjouis du grand péché comme de ma grande consolation. Et puis, le bien suprême et le mal suprême sont identiques. » Mais surtout, il y en a une très belle, c'est dans « Le convalescent », dans Zarathoustra, donc... L'homme est le plus cruel des animaux, c'est en assistant à des tragédies, à des combats de taureaux et à des crucifixions que jusqu'à présent il s'est senti le plus à l'aise sur la terre. Et lorsqu'il inventa l'enfer, ce fut en vérité son paradis.
Oui. Ce point de vue-là, je crois que Bataille, toute sa vie, restait quand même extrêmement nietzschéen, au point que jeune, il a failli renoncer d'écrire parce qu'il considérait que Nietzsche avait tout dit avant lui.
Il a beaucoup écrit sur Nietzsche, d'ailleurs.
Hein. Il a beaucoup écrit sur Nietzsche avec une fidélité qui ne s'est jamais démentie, oui.
Donc, alors, ce péché qui est proche du sacrifice, en fait, Bataille... le définit aussi par son négatif, en quelque sorte. Et le rôle du néant est très important dans cette conférence et dans ses raisonnements.
Oui, parce que à quoi ouvre le sacrifice, à quoi ouvre le péché, c'est-à-dire que c'est le crime, par exemple, le mal à son point asymptotique, maximal, c'est au néant, c'est au vide du néant, au néant de l'ennui, des fois, dit-il, mais certainement pas à quelque chose de l'ordre du jugement. Le jugement en appellerait à une justice. Rien n'est le plus étranger que l'affirmation de la possibilité d'une justice. Mmh. Il récuse cela absolument.
Alors, il y a la négativité aussi dont il parle.
C'est absolument... Voilà. Alors cela, il est hegelien davantage que nietzschéen. Ça, c'est aussi... Le péché est aussi un mouvement, c'est-à-dire qu'il est le négatif. Alors,
là, négatif à l'œuvre.
Oui, c'est ça, la mort à l'œuvre, le négatif à l'œuvre. Il faudrait faire là un tout petit retour en arrière, j'essaye de le faire vite. Et il faudrait rappeler la lettre qu'il a écrite à l'autre grand hegelien, le plus grand encore.
Kojève.
Alexandre Kojève, à qui il a écrit qu'est-ce qu'il advient de la négativité dès l'instant qu'elle est sans emploi, à la fin du processus de l'histoire. Et lui-même, en 36-37, se représente à lui-même comme négativité sans emploi. Et c'est une souffrance, dans un premier temps, pour lui, de se représenter comme tel. Et puis, à la fin, c'est la clé. Elle est sans emploi parce qu'elle n'a pas à trouver d'emploi.
Alors, il est également question de la mort de Dieu, dans ce, évidemment, là aussi, hein, pas d'une manière forcément très explicite, mais c'est dans une des réponses de Sartre que ça apparaît. Alors, je la cherche, vous la citez vous-même, dans une des réponses de Sartre, donc, Sartre qui très... judicieusement lui dit, donc en résumant dans une de ses questions les propos de Bataille, donc Bataille dit que la mort de Dieu n'est ni de force ni même de nature à faire qu'il n'ait pas été. Et donc il ajoute, en interprétant Bataille, très justement, semble-t-il, autrement dit, ce dont Nietzsche, dites-vous, Michel Suria, qui citait donc ses propos, nous aurait prévenu, qu'à la place de Dieu, il n'y a pas rien. Mais ça, le rien de Dieu. Ça, c'est très fort, ça, quand même.
Oui, mais ça, c'est pas Sartre.
C'est de la théologie négative.
C'est Bataille, ça. Bataille affirme.
Oui, toujours mais il le résume ainsi.
Il le résume bien, il le comprend. Moi, je le résume différemment. Dieu ayant été représenté comme éternel, sa mort est éternelle aussi. Oui. C'est purement logique. Et ces logiques-là, ce sont celles-ci qui vont justement gêner Sartre. Parce qu'il a raison de dire que Bataille sera fidèle à cette représentation-là. Là où il y a eu Dieu, il n'y a pas rien. Il n'y a pas l'absence de Dieu, il y a Dieu n'étant pas, et c'est infiniment, et c'est pas un néant. En cela, il est assez historiciste. Dès l'instant que cette représentation a existé, qu'elle a formé, fourni des images et des mythes en masse, peinture, musique, etc., il est inévitable que ce soit en masse, qu'elle persiste, même comme morte. Cette représentation, elle est morte et elle est pourtant infiniment vivante. Et c'est l'ambiguïté de Bataille qui fait qu'aujourd'hui, des interprétations de Bataille peuvent encore se donner, comme que je récuse, que je trouve tout à fait fausse, et qui font de Bataille une sorte de chrétien illégitime ou de chrétien honteux. C'est pas le cas du tout.
Alors, il est également question de morale, la morale des sommets, comme il dit, et la morale du déclin. On va y revenir, mais à propos de cette question du négatif dans l'histoire et dans les cieux, on peut dire également, je recommande moi la lecture de l'introduction à la discussion faite par il n'était pas cardinal.
Le
révérend père Danielou, Jean Danielou, donc. Donne un point de vue de chrétien, mais en acceptant d'une certaine façon les prémices, les concepts énoncés par Bataille.
Mais sûr, il faut,
et c'est très éclairant, je
il
trouve.
Il faut louer la très haute qualité intellectuelle des représentants du catholicisme. Il y a Danielou, vous l'avez dit, c'est essentiel. Mais il y a Madol, il y a Massignon, Gandillac.
Oui, Massignon qui intervient beaucoup.
Bien sûr, et qui est un homme éminent. Tous ont travaillé sur la mystique et tous quand même se disent, Gandillac, c'est le cas aussi, se déclare comme chrétien. Le clergé intellectuel actuel était aussi élevé que ça, il aurait quelque intérêt à l'écouter. C'est tout à fait étonnant. Ouais. Alors, Danielou, oui, c'est très étrange parce qu'ils continueront de se connaître, Danielou et lui. Ils continueront de s'estimer. Même il arrivera que Danielou rende quelques services bien plus tard, 15 ans plus tard, à Bataille. Et Danielou, parce qu'il a lu, et comme c'est le cas de Lubac aussi, d'Henri de Lubac, qui est un autre jésuite, ce sont deux jésuites, et comme ils ont lu intensément, je le disais tout à l'heure, Dostoïevski et Nietzsche, sont capables d'entendre véritablement ce que met en jeu Bataille, comme Klossowski est capable de le comprendre aussi. Klossowski est une figure tout à fait étrange au milieu de cet aréopage. Lui qui a été si proche de Bataille, à la différence de Moret, jusque dans l'entreprise d'Acéphale, dans tous les égards d'Acéphale, revue et communauté secrète, et qui à ce moment-là est séminariste, qui assiste sans doute en soutane à cette séance, avant qu'il quitte le séminaire, et répudie toutes les représentations, puis fasse l'éloge de Sade. Et d'une certaine façon, comme je disais tout à l'heure, que pour des chrétiens, comme pour Lubac et Danielou, Nietzsche et Dostoïevski sont une chance par surcroît pour le christianisme. Plus follement encore, Klossowski dira très vite après, dans Sade, mon prochain, que c'est Sade la plus grande chance du christianisme. D'une certaine façon, il manquait au christianisme l'hérésie majeure qu'elle constituait comme absolue et parfaite. Et c'est un peu cet équivoque-là qui est très marqué jusqu'à en être délibérément apologétique chez Klossowski. C'est un peu cette ambiguïté-là dont se servent Danielou et les autres, Moret par exemple, avec Bataille. Comment faire pour que ce qu'il dit, qui est censé desservir le christianisme, le serve par surcroît?
Voilà. Alors, Danielou tire un petit peu quand même la notion de péché vers Kierkegaard, plutôt que Hegel ou Nietzsche, vers la notion de culpabilité. Mais je trouve que son intervention est extrêmement éclairante, très, très bien construite et surtout étonnamment attentive au développement parfois subtil, compliqué, de Sartre dont on a pu de Bataille dont on a pu donner qu'une petite idée finalement. Alors il y a cette notion également de morale, évidemment la morale intervient là-dedans puisqu'il est question de péché, et à cette espèce de péché surdimensionné dont nous parle Bataille dans le texte correspond donc une morale des sommets, et là aussi on se rapproche de la mystique.
La morale n'intéresse en fait ni les chrétiens qui n'ont pas affaire avec la morale en principe, c'est une révélation, le christianisme, et ni Bataille non plus. Bataille étant slanitchien, la morale est du sommet, elle se justifie en tant que telle comme expérience, elle n'a pas à faire valoir ses raisons, elle n'est jugeable d'aucun point de vue. Elle est en cela, là, le mot évidemment que vous prononcez est absolument légitime, c'est une mystique. Alors évidemment pour les chrétiens présents, c'est une mystique spiritualiste. Pour Bataille, c'est une mystique sans Dieu. C'est même une mystique, comme de Lubach l'appelle et la craint, c'est une mystique antithéiste. Et évidemment, c'est de là que se trouve le plus loin Sartre. Sartre il n'est pas sans comprendre. Il peut évidemment, il est trop intelligent pour ne pas le comprendre. Il le comprend fort bien, il le récuse. Et c'est en ça qu'il stigmatise Bataille du nom d'un philosophe qui l'a précédé, qui n'est pas celui de Nietzsche, et qui bizarrement est un nom que Sartre admire aussi beaucoup, c'est celui de Pascal. À la fois le ton, à la fois le style de l'expérience intérieure, à la fois ses raisonnements aigres, etc., dont il parle pour les moquer. C'est Pascal qui lui vient immédiatement à l'esprit, et je crois que c'est ce qui impressionne si fort ceux qui sont saisis par le ton d'authenticité qui est celui de Bataille. Il se met tout à fait à nu, se laisse assez acculé tout un temps de la conférence pour dire finalement que son rire n'est pas du tout le rire aigre qu'on lui prête, que c'est un rire assez joyeux, ce dont il y a lieu de douter, et pour à la fin admettre que oui, ce rire est tout à fait amer et que c'est lui qui est très désespéré, la toute fin est très étrange, il rend les armes alors que tous les autres lui ont rendu les armes, c'est lui qui dit à la fin mais non, pour moi c'est pire encore, je me sens tout à fait triste à la fin. C'est une fin de conférence ou de discussion tout à fait étonnante
absolument. Et la dernière phrase, c'est l'existence ne peut être à la fois autonome et viable. Là vous parlez de la fin de la discussion,
la fin de la discussion,
Michel Suria. Il me semble, parlant ainsi, l'avant-dernière phrase de la conférence, parlant ainsi, respirer l'air libre du sommet. Alors la morale du sommet, c'est évidemment celle qui nous propose, dit-il, de nous mettre en jeu. Elle naît, alors c'est un thème aussi typiquement bataillien, la mise en jeu, elle n'est sinon qu'une règle d'intérêt, il parle là de la morale,
de la morale. Plutôt,
ouais, auquel manque l'élément d'exaltation, le vertige du sommet que l'indigence baptise d'un nom servile impératif.
Oui, toute morale, pour lui, toute morale ordinaire, c'est celle qui s'abîme dans le délai, dans le temps, dans le but, dans le travail, et donc dans la rédemption, la consolation, voilà, tout ce qu'il récuse sous le terme de morale ordinaire. Et évidemment, celle qu'il exalte, et qu'il exalte, c'est celle du sommet, celle qui ne se donne aucune espèce de règle, ne cherche aucun but, aucune consolation, se défie de tout jugement.
Alors je voulais juste citer une anecdote à propos des relations entre Bataille et Sartre dont nous avons fait état au cours de l'émission avec vous, Michel Suria, puisque cet échange est très important pour cette discussion. Vous racontez qu'au cours d'une soirée de fête, on va dire, où s'étaient trouvés ensemble Georges Bataille et Jean-Paul Sartre, après sans doute quelques verres, Bataille lui aurait glissé à l'oreille « Vous êtes l'être, je suis le néant ».
Il faut ajouter, pour que ce n'est plus de sel encore, oui, les verres ont dû être nombreux, l'un et l'autre buvaient bien et beaucoup. Et ils dansaient l'un et l'autre. Ils avaient assez bu pour s'être mis à danser un peu de façon faunesque dans l'atelier de Balthus, cours de Rohan. L'un a glissé à l'autre ses batailles. C'est une vacherie d'ailleurs, à la vérité. Vous êtes l'être et moi je suis le néant.